Vous écoutez On lit pour vous.
Ce que les chats peuvent nous apprendre sur les cancers humains. Un texte de Geoffrey Wood, paru le 8 mai 2026 dans La Conversation. Les chats vivent dans nos maisons, boivent notre eau et dorment même dans nos lits. Ils sont des membres à part entière de nombreux foyers et partagent notre vie. Ils présentent également de nombreuses similitudes biologiques avec nous. Les chats ont un taux de cancer similaire à celui des humains et développent souvent les mêmes types de cancers. Comme pour les humains, l'amélioration des soins de santé et de l'alimentation leur permet de vivre plus longtemps, ce qui augmente leur risque de souffrir d'un cancer au cours de leur vie. Avec mes collègues, nous nous sommes demandé si les cancers félins ressemblaient aux cancers humains sur le plan génétique. Nous avons mené la plus grande étude jamais réalisée sur le séquençage de l'ADN des tumeurs des chats. Nos recherches ont révélé des similitudes frappantes entre les cancers félins et humains et les résultats laissent entrevoir des retombées positives tant pour les chats que pour nous. Notre collaboration internationale a permis de publier récemment une étude portant sur les tumeurs de 500 chats et couvrant 13 types de tumeurs. Nous avons isolé l'ADN de ces tumeurs et cartographié la séquence de 1000 gènes qui présentent souvent des mutations dans les cancers humains. Cancers félins et humains. Dans l'ensemble, le gène qui a le plus souvent muté est le gène TP5, un gène de protection contre le cancer qui est également le plus fréquemment muté dans les cancers humains. Un autre exemple est le gène PIK3CA qui comporte une mutation dans environ 40 % des cancers du sein chez l'être humain et dont on a constaté qu'il était altéré dans environ 50 % des cancers mammaires chez le chat. Il existe des médicaments spécialement conçus pour les cancers humains présentant certaines mutations, comme celle du gène PIK3CA. Maintenant que nous connaissons les mutations courantes dans les cancers félins, il est possible de tester ces médicaments sur les chats. Comment étudions-nous le cancer chez les chats? Depuis 2009, la Biobanque vétérinaire du Collège vétérinaire de l'Ontario, qui fait partie de l'Institut de recherche comparative sur le cancer de l'Université de Guelph, conserve des échantillons de tumeurs provenant de chats traités au Centre de cancer animal. Avec le consentement du propriétaire, une partie de la tumeur prélevée lors de l'intervention chirurgicale est préservée et congelée en vue d'études futures. De plus, des échantillons sanguins sont conservés afin de servir de ressources pour mettre au point des tests de dépistage moins invasifs en utilisant des molécules associées à la maladie présentes dans le sang. Récemment, la Biobanque vétérinaire s'est jointe au consortium Biobanque Ontario afin de faciliter les études sur le cancer entre espèces. Des essais cliniques sur le cancer sont également menés chez des chats et des chiens dans le but d'utiliser les résultats de la recherche pour concevoir de meilleurs traitements pour les animaux de compagnie, mais aussi pour nous permettre de mieux comprendre les cancers humains. Les chats peuvent nous en apprendre beaucoup sur les cancers humains. Il existe plusieurs cancers ou sous-types de cancers qui sont courants chez les chats, mais rares chez nous. Le cancer mammaire triple négatif, caractérisé par l'absence de récepteurs d'ostrogène et de progestérone et du récepteur du facteur de croissance HER2, est de loin le sous-type le plus courant chez les chats. Il ne représente toutefois que 15 % des cancers du sein chez l'humain. Ce sous-type touche principalement les jeunes femmes, les femmes noires et celles présentant une prédisposition génétique héréditaire, mutation du gène BRCA1. Il est particulièrement agressif et difficile à traiter. Le cancer du pancréas est un autre exemple. Le sous-type acineux, le plus fréquent chez les chats, est relativement rare chez l'être humain. Il est donc plus facile de mener des études sur ce type de cancer chez les chats. Notre étude sur le séquençage génomique chez le chat a également révélé quelques différences dans les profils de mutations entre les cancers humains et félins. Environ 25 % des cancers humains présentent des mutations des gènes RAS, alors que ces mutations sont rares chez les chats. L'étude de ces cancers chez le chat pourrait nous aider à mieux comprendre le rôle de ces gènes dans le développement de la maladie. Génome de souris et de chats. Les associations caritatives de lutte contre le cancer et les organismes qui octroient des subventions pour la recherche en santé humaine soutiennent régulièrement des études utilisant des modèles de cancer humain chez les rongeurs, mais l'étude du cancer chez d'autres espèces animales est plus difficile à faire accepter. Les rongeurs servant de modèles sont génétiquement modifiés pour développer un cancer ou pour présenter un système immunitaire gravement déficient de manière à pouvoir héberger des cellules cancéreuses humaines. Ces modèles sont très efficaces pour étudier les mécanismes moléculaires du cancer, mais leur bilan en matière de médicaments anticancéreux est médiocre. En effet, plus de 90 % des nouveaux traitements anticancéreux mis au point à partir de ces modèles échouent lors des essais cliniques humains et ne sont jamais autorisés à des fins thérapeutiques. En revanche, le cancer se développe souvent spontanément chez le chat dans le même environnement que chez les humains. Ces animaux présentent également de nombreux troubles sous-jacents ou concomitants similaires aux nôtres, tels qu'obésité, maladies auto-immunes, maladies rénales, diabète et divers autres troubles endocriniens. Le génome des chats ressemble davantage à celui des humains que le génome des souris et l'organisation du génome félin, l'ordre des gènes sur les chromosomes, est plus proche de celle de l'être humain que ne l'est celle du chien. L'atlas du génome du cancer est une immense base de données en libre accès qui répertorie les mutations observées dans différents types de cancers chez les humains. Aucune ressource de ce type n'existe pour les chats. Les données issues de notre récente publication sont désormais disponibles via le Wellcome Sanger Institute. Elles constitueront une ressource fondamentale et gratuite pour les chercheurs qui étudient le cancer chez les chats et les humains au bénéfice des deux espèces. C'était ce que les chats peuvent nous apprendre sur les cancers humains. Un texte de Geoffrey Wood, paru le 8 mai 2026 dans La Conversation.
Un festival métis de la Saskatchewan débarque dans Roblox. Un texte de Clémence Tessier chez As de l'Info, paru le 2 juin 2026 dans L'Eau Vive. Tu connais sûrement Roblox, le célèbre jeu vidéo dans lequel des millions d'utilisateurs créent leur propre monde virtuel. Mais savais-tu que cet été, tu pourrais assister à un festival directement sur cette plateforme ? Oui, oui. Voici comment un festival autochtone de la Saskatchewan, au Canada, s'est retrouvé dans ce jeu vidéo très populaire. Le festival Back to Batoche est un événement de 4 jours où on célèbre la culture métisse. Il a lieu à Batoche, en Saskatchewan, depuis plus de 50 ans. Au programme, danse, musique, contes et arts traditionnels. Cette année, pas besoin de te rendre en Saskatchewan pour prendre part aux festivités. Tu pourras les découvrir directement dans Roblox. Les gens qui n'auront pas la chance de se rendre à Batoche auront l'occasion d'amener Batoche vers eux. C'est une partie de l'expérience pour qu'ils puissent la vivre à leur manière, a expliqué Andrea Fiss, directrice des sports et de l'éducation de la petite enfance de la nation métisse de la Saskatchewan à Radio-Canada. Jouer et célébrer sans quitter la maison. Le festival a collaboré avec Masqua Games, un studio qui crée des jeux vidéo. Ce sont eux qui se sont occupés de construire cette version virtuelle de Back to Batoche dans Roblox. Dans le jeu vidéo, il y aura plusieurs activités inspirées du vrai festival. Par exemple, les joueurs pourront visiter un espace pour enfants, participer à des courses de chevaux ou s'essayer au lancer de haches. Ils pourront aussi discuter et se déplacer ensemble dans l'univers virtuel. Et à Batoche, des tablettes électroniques seront prêtées aux visiteurs du festival pour leur permettre d'essayer le jeu. Apprendre une langue en jouant. Le projet veut aussi aider à faire connaître le Mi'kmaq, une langue parlée par plusieurs Métis. Le Mi'kmaq mélange surtout le français et des langues autochtones. Aujourd'hui, peu de personnes le parlent encore. Dans le jeu, les joueurs pourront apprendre certains mots en Mi'kmaq. Avant sa sortie officielle, le jeu sera testé par de jeunes adultes de la nation métisse de la Saskatchewan. Et toi, tu pourras le visiter du 14 au 19 juillet. Et toi, si tu pouvais créer ton propre festival, qu'est-ce qu'on y célébrerait? C'était un festival métis de la Saskatchewan débarque dans Roblox. Un texte de Clémence Tessier, chez As de l'Info, paru le 2 juin 2026 dans l'Eau Vive.
Des arcs-en-ciel dans les nuages. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 juin 2026 dans la presse. Marie Pépin, une lectrice, demande « Pourquoi les nuages prennent-ils les couleurs de l'arc-en-ciel? » La formation d'arc-en-ciel après ou pendant une averse est bien connue, mais il est vrai que parfois, ce sont carrément les nuages qui revêtent une palette multicolore. Pour ce faire, des conditions particulières doivent être réunies. Il faut des nuages composés de gouttelettes d'eau plutôt que de cristaux de glace, avec des particules uniformes et qui sont proches de l'axe du soleil. Dans ce cas, il se produit un phénomène qui s'appelle l'iridescence, explique Stephen Buzinger, climatologue de l'Université d'Hawaï et auteur de nombreuses études sur les arcs-en-ciel. C'est un peu ce qui se produisait quand on regardait de la lumière qui se reflétait sur les disques compacts musicaux. Les gouttelettes du nuage interagissent avec la lumière, ça crée de la diffraction. Ce phénomène est semblable à la formation des arcs-en-ciel de pluie, c'est-à-dire quand la lumière frappe les gouttelettes d'eau et qu'il se forme un mélange de réfraction. Le changement de direction des rayons lumineux est de réflexion variable selon la longueur d'onde de la lumière et donc la couleur. Dans le cas des arcs-en-ciel de nuages, ces derniers doivent être proches de l'axe du soleil parce qu'il faut que ces rayons soient déviés de manière relativement verticale. Faut-il des nuages très hauts dans le ciel? Non. Ça peut être des nuages bas ou à haute altitude, dit M. Buzinger. Mais s'ils sont très élevés, ils vont avoir des gouttelettes d'eau qui peuvent facilement devenir de la glace. Alors, ce sont des nuages très délimités, pas des nuages vaporeux. Il y a aussi des arcs-en-ciel sur des nuages créés par une interaction avec les montagnes et même par l'ombre d'un avion sur un nuage, dit M. Buzinger. Et il y a des arcs-en-ciel créés par l'interférence avec le brouillard, qui peuvent avoir l'air accroché à un nuage. Ces arcs-en-ciel de brouillard sont surnommés « gloire » par les spécialistes. Changement climatique. Les arcs-en-ciel seront plus fréquents avec les changements climatiques, a calculé M. Buzinger en 2022 dans un article publié dans la revue « Global Environmental Change ». Il va y avoir des changements dans la formation des nuages par rapport au soleil. Ça va favoriser les arcs-en-ciel dans les plateaux en altitude et en montagne. En moyenne, le nombre de jours propices aux arcs-en-ciel va augmenter de 4% à 5% à l'échelle de la planète d'ici 2100. Toutefois, entre le quart et le tiers des régions du monde connaîtront un scénario inverse. Celles qui sont proches du niveau de la mer assisteront à une baisse du nombre d'arcs-en-ciel. Cela est en partie attribuable au fait que les précipitations vont se concentrer dans un nombre réduit de journées, ce qui va augmenter le nombre de jours sans pluie, moins propice aux arcs-en-ciel, puisqu'ils apparaissent moins souvent dans les nuages. L'étude de M. Buzinger est basée sur l'analyse de dizaines de milliers de photos sur le site de partage de photos et de vidéos Flickr. Celles qui montraient un arc-en-ciel étaient analysées en fonction de la précipitation et des nuages enregistrés ce jour-là et de l'angle du soleil sur la photo. Pourquoi s'intéresser aux arcs-en-ciel? Ils font partie de l'expérience humaine depuis le début de l'histoire et ont eu un impact important sur les arts, la religion et la mythologie, dit M. Buzinger. On peut dire que ce sont des services culturels que fournissent les écosystèmes terrestres. En savoir plus. 117. Nombre moyen de jours par année où les conditions sont propices à la formation d'arc-en-ciel dans une région donnée de la Terre. Source Global Environmental Change. 8h58. Période d'observation la plus longue d'un arc-en-ciel en 2017 à Taïwan. Source Livre Guinness des records. C'était Des arcs-en-ciel dans les nuages, un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 juin 2026 dans La Presse.
La jeune Terre a été ravagée par les astéroïdes, mais cela aurait tout changé. Un texte de Morgane Gillard, paru le 15 juin 2026 dans Futura Science. Il y a plus de 4 milliards d'années, la Terre subissait un bombardement intense d'astéroïdes. Longtemps considérés comme de simples agents de destruction, ces collisions pourraient pourtant avoir joué un rôle inattendu en créant des environnements favorables à l'émergence de la vie. Cratères, zones fracturées, fusion des roches, les impacts d'astéroïdes peuvent engendrer, suivant leur taille, d'importants dommages à la croûte terrestre. Aujourd'hui, c'est grâce à ces modifications locales de la géologie que l'on peut retrouver la trace d'anciens impacts dont les cratères ont depuis longtemps disparu dans le paysage. Une jeune Terre bombardée par les astéroïdes. Si désormais les grands impacts sont relativement rares, la situation était tout autre il y a plus de 4 milliards d'années. Le jeune système solaire est en effet encore parcouru par de très nombreux astéroïdes et débris issus de la phase primordiale d'accrétion planétaire. Des études fondées sur le comptage des cratères lunaires suggèrent que le bombardement de la Terre était alors extrêmement intense. Les grands impacts étant jusqu'à 100 000 fois plus fréquents qu'aujourd'hui. Mais dans quelle mesure ce bombardement cataclysmique a-t-il pu affecter la formation et l'évolution de la protocroûte terrestre? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord se rappeler que la Terre de cette époque était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Cette croûte primitive s'est en effet formée par cristallisation d'un océan de magma primordial. Sa nature était donc très différente de la croûte que nous trouvons aujourd'hui sous nos pieds, dont la composition a été modifiée au fil du temps par les multiples événements de fusion-cristallisation qui ont accompagné la tectonique des plaques. La croûte terrestre primitive était certainement principalement de nature mafique, avec des roches riches en fer et en magnésium comme le basalte. Une croûte intensément fracturée et perméable. Pour comprendre les conséquences d'un bombardement massif sur cette croûte, une équipe de chercheurs a réalisé des simulations numériques en faisant varier plusieurs paramètres comme l'épaisseur de la croûte basaltique, le gradient géothermique et la présence ou l'absence d'un océan d'eau liquide profond de 5 km. Les résultats, publiés dans la revue AGU Advances, révèle que les collisions auraient pu très fortement impacter la perméabilité de la croûte. L'intense fracturation de la croûte par les impacts hypervéloces, survenus avant 4,3 milliards d'années, aurait ainsi permis une circulation accrue de fluides et de gaz au sein des 8 premiers kilomètres. Chaque impact individuel aurait localement généré une activité hydrothermale 100 fois plus importante que celle observée sur le site de Yellowstone. L'effet cumulé des impacts aurait maintenu la croûte terrestre dans un état fortement perméable pendant près de 1,5 milliard d'années. Un contexte cataclysmique qui aurait, contre toute attente, été particulièrement propice à l'établissement d'une chimie prébiotique. Selon l'hypothèse dominante, les premières formes de vie auraient en effet émergé il y a près de 4 milliards d'années au sein d'environnements hydrothermaux qui offrent des conditions favorables aux réactions chimiques complexes. Alors que les impacts géants sont généralement perçus comme des agents de destruction, cette étude suggère donc au contraire qu'ils auraient pu contribuer à créer les conditions nécessaires à l'apparition de la vie en multipliant les environnements propices aux réactions prébiotiques. C'était « La jeune Terre a été ravagée par les astéroïdes, mais cela aurait tout changé ». Un texte de Morgane Gillard, paru le 15 juin 2026 dans Futura Science.
Magnétothèque, la bibliothèque aux 10 000 livres sonores. Un texte d'archives de Valérie R. Carbonneau, paru le 31 janvier 2009 dans Le Devoir et diffusé dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de la Magnétothèque. À noter que certaines informations qu'il contient peuvent ne plus être à jour. En cette période anticipée de vaches maigres, les organisations caritatives sentent bien la menace et craignent qu'on les place au rang des oubliettes. Néanmoins, bien qu'elles se sentent fragilisées, la demande n'en demeure pas moins importante. Certes, grâce au caractère unique de son concept, la magnétothèque se verra peut-être épargnée d'une telle mise en garde. Œuvrant auprès d'une clientèle atteinte de déficience visuelle, si on s'en tient à sa structure actuelle, la magnétothèque est le seul centre de la sorte au Québec. Ainsi, tout comme son équivalent canadien, l'Institut national canadien des aveugles, INCA, elle a pour mission de permettre l'accessibilité à l'imprimé sous forme sonore à tous ses membres. Nous sommes le plus grand producteur de livres sonores adaptés dans toute la francophonie, mentionne Marjorie Théodore, directrice générale de la Magnétothèque. Depuis 1976, l'établissement enregistre plus de 700 livres par an, tout en veillant au respect des diverses normes d'acquisition établies préalablement par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Ce nombre s'ajoutant année après année à la collection de l'établissement, la Magnétothèque met à la disposition des utilisateurs près de 10 000 livres sonores adaptés, à même la Bibliothèque nationale. Quelque 80% de l'information qu'on reçoit vient de la vue, par exemple par les panneaux d'affichage, la télévision ou bien les journaux et les revues, alors que seulement 20% nous provient de l'audition. L'accès au savoir et à la culture, pour ces gens qui ne peuvent tirer profit autrement de l'imprimé, est une cause qui me tient vraiment à cœur. Personnellement, si je perdais l'usage de la vue, ce serait grave, admet la directrice générale. À la question de savoir si elle avait un témoignage à partager, Marjorie Théodore évoque Marie-Jeanne Bérubé, membre exceptionnel et toujours active de la Magnétothèque. Cette dernière a perdu la vue à l'âge de 25 ans, ce qui ne l'a pas empêchée de compléter un baccalauréat grâce à la Magnétothèque. Grande adepte de lecture dans ses loisirs, elle a également siégé au conseil d'administration à titre de présidente pendant quelques années. Les fondements et l'évolution. Lorsqu'il était à la maîtrise à l'Université de Montréal, André Hamel a perdu la vue. Fervent lecteur, il ne pouvait donc plus se livrer à sa passion pour la littérature. Il a alors entendu parler de Recording for the Blind, un organisme états-unien où il s'est rendu pour en étudier la structure. Il est ensuite revenu au Québec pleinement inspiré pour fonder la Magnétothèque à l'image de cet organisme. Ainsi, au cours des premières années de son existence, soit de 1976 à 1985, la Magnétothèque s'est consacrée notamment aux étudiants handicapés de la vue, leur offrant ses services pour l'enregistrement de documents pédagogiques. À l'époque, l'organisme était financé en grande partie par le ministère de l'Éducation du Québec, précise Marjorie Théodore. Dès 1984, la Magnétothèque est reconnue par l'État québécois comme un organisme de service offert aux personnes handicapées de la vue. En 1986, l'organisme connaît un changement de parcours. Cette année-là, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, anciennement le ministère des Affaires culturelles, a demandé à la Magnétothèque d'enregistrer des livres de loisirs. Depuis, la Magnétothèque doit suivre la politique de développement des bibliothèques publiques. Par la suite, en collaboration avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, en 2001, la Magnétothèque a mis au point le Service québécois du livre adapté, SQLA, où elle joue un rôle de diffuseur. En 2005, l'organisme a cédé ses activités de diffusion à BANQ et s'oriente dorénavant comme un centre de production de livres sonores. Avant 2005, l'usager qui voulait un livre appelait directement à la magnétothèque, alors que depuis 2005, il doit être abonné à BANQ, laquelle héberge la collection de la magnétothèque, explique-t-elle. Depuis, les services ont pris beaucoup d'ampleur. La magnétothèque permet dorénavant l'enregistrement de livres et de documents sonores et on y vend également des livres sonores préenregistrés, en collaboration avec les éditions Stanké. Elle a même amorcé un projet de radio personnalisé. La radio de la magnétothèque diffuse une programmation quotidienne variée au moyen du câble, d'Internet ou de la télévision numérique. La radio fait la lecture intégrale d'articles de quotidiens francophones. Elle diffuse une programmation de 6 heures en boucle, ajoute Marjorie Théodore. Elle permet à plus de 450 000 auditeurs d'écouter des articles de journaux et de revues francophones, ainsi que des éditoriaux, et ce, à toute heure du jour. En somme, la magnétothèque veille à la mise en place d'un service à la clientèle hautement qualifié pour rejoindre plus de 8 000 usagers abonnés. Bien qu'elle lance elle-même ses campagnes de souscription, elle vit aujourd'hui en grande partie grâce à l'appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Elle regroupe plus de 400 bénévoles, lesquels sont invités à prêter main-forte à plusieurs niveaux, par exemple au cours des différentes activités de financement, des marathons de lecture, en plus de siéger au conseil d'administration, alors que 2 sièges sont réservés aux membres non-voyants. Le site Internet a également été conçu de telle sorte que les visiteurs aux prises avec une déficience visuelle jouissent d'un outil virtuel accessible. La magnétothèque fait partie de l'Union francophone des aveugles et est très présente au sein de la francophonie, ajoute Marjorie Théodore. L'organisme prête également son expérience et son expertise et participe activement à des projets de développement durable au niveau international, notamment la mise sur pied d'une bibliothèque sonore en Algérie. C'était Magnétothèque, la bibliothèque aux 10 000 livres sonores. Un texte d'archives de Valérie R. Carbonneau, paru le 31 janvier 2009 dans Le Devoir, et présenté dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de la Magnétothèque.